Il est 23h en temps universel, minuit, ici à Paris, le journal sur RFI.
Mathis Limano.
World Central Kitchen suspend ses activités à Gaza. Trois travailleurs de l'ONG ont été tués ce samedi dans une frappe israélienne. Le ton monte entre Belgrade et Pristina. Le Kosovo accuse la Serbie d'être derrière l'attentat qui a endommagé un canal essentiel la nuit dernière. Et puis en Allemagne, les élections fédérales, c'est dans moins de 3 mois, mais la campagne est bien lancée. On va à Berlin dans le journal. World Central Kitchen annonce suspendre ses opérations à Gaza après une frappe israélienne mortelle sur un véhicule. Ce dernier transportait des vivres le long de la route Salah al-Din à Khan Younes. Alice Roussard, au moins 3 travailleurs de cette ONG internationale ont été tués.
2 frappes coup sur coup. Une première qui tue 3 travailleurs humanitaires dans un véhicule qui transportait du riz et d'autres denrées alimentaires. Une deuxième qui tue 2 Gazaouis venus leur porter secours. Tous sont tués sur le coup. Nous avons le cœur brisé en apprenant qu'un véhicule transportant nos collègues a été touché par une frappe israélienne à Gaza. Voilà ce qu'a déclaré l'ONG américaine dans un communiqué précisant qu'elle n'a pour l'heure que des informations incomplètes et qu'elle attend, je cite, d'urgence plus de détails sur les circonstances. Israël justifie cette frappe en disant que le véhicule visé transportait un militant palestinien recherché. World Central Kitchen déclare qu'elle n'a aucunement connaissance d'un individu dans la voiture ayant des liens avec le Hamas. Ce n'est surtout pas la première fois que l'ONG est visée. Déjà en avril dernier, un convoi de 3 véhicules de World Central Kitchen avait été directement bombardé. 7 travailleurs humanitaires avaient été tués. Aujourd'hui à Gaza, les cuisines communautaires mises en place par l'organisation n'ont pas fonctionné, laissant des milliers de Gazaouis sans nourriture. Alice Froussard, Ramallah, RFI.
Les États-Unis ou l'ONG à son siège n'ont pas réagi pour le moment. Depuis le début de la guerre, au moins 333 travailleurs humanitaires ont été tués dans l'enclave palestinienne. Gaza, où encore une centaine d'otages sont détenus depuis le 7 octobre. Dans ce contexte, la branche armée du Hamas a publié ce samedi une nouvelle vidéo de l'un d'entre eux. La vidéo, dont la date d'enregistrement ne peut être vérifiée, montre un jeune homme. Il s'adresse en anglais à Donald Trump et en hébreu à Benjamin Netanyahou et appelle à faire pression sur le gouvernement israélien pour sa libération et celle de tous les otages. La Syrie est capable de vaincre les terroristes, déclaration du président syrien Bachar el-Assad, alors que la majeure partie d'Alep, deuxième ville du pays, est tombée aux mains des djihadistes du HTC et de leurs alliés, idem pour l'aéroport ainsi que plusieurs localités stratégiques du nord-ouest de la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ce samedi, une frappe aérienne attribuée à la Russie a tué 16 civils à Alep. Le ton monte entre Belgrade et Pristina après l'explosion la nuit dernière d'une importante canalisation d'eau alimentant des centrales électriques et une partie de la population du pays. Laurent Rouy.
Survenue dans une zone peuplée de Serbes, l'explosion a endommagé une canalisation d'eau importante, cette eau servant à refroidir les 2 centrales au charbon du Kosovo. Si la production d'électricité a repris, l'eau potable reste coupée dans une partie du territoire. Le premier ministre Albin Kurti a accusé le président serbe Aleksandar Vučić ainsi que Milan Radojičić d'avoir organisé ce qu'il qualifie d'attentat. Radojičić est un criminel impliqué dans une attaque paramilitaire au Kosovo en 2023 qui avait causé 4 morts. Le premier ministre kosovar affirme avoir des preuves. De son côté, le président serbe a refusé de réagir car, je cite, « la Serbie n'a rien fait et ils le savent ». En tout cas, une nouvelle crise semble s'ouvrir au Kosovo, la police ayant été déployée avec des blindés et fortement armés dans les principales communes serbes du Nord. L'explosion survient au lendemain d'un jet de grenade en ville qui n'avait pas fait de blessés et un peu plus de 2 mois avant des élections législatives pour lesquelles le parti du Premier ministre, partisan historique d'une ligne dure envers la Serbie, part favori. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
L'Union européenne, les États-Unis et la France ont fermement condamné l'attaque. Paris qui demande que toute la lumière soit faite. Répression policière violente, arrestation en cascade et une mobilisation qui ne faiblit pas. Les rues de Tbilissi, la capitale de la Géorgie noire de monde, pour la 3e nuit consécutive. À l'heure où je vous parle, les affrontements se concentrent devant le Parlement. Jets de feux d'artifice d'un côté, gaz lacrymogène et canons à eau de l'autre. Des milliers de manifestants pro-Europe dénoncent la décision du gouvernement proche de Moscou de reporter les négociations d'adhésion à l'UE. Une centaine d'entre eux déjà arrêtés par la police dans ce que Washington qualifie d'usage excessif de la force. Par ailleurs, la présidente géorgienne, la pro-européenne Salomé Zourabichvili, a déclaré qu'elle ne quitterait pas son poste à la mi-décembre, comme son mandat l'exige, tant que de nouvelles législatives ne seraient pas organisées, celle de fin octobre étant entachée d'irrégularités, selon l'opposition et l'Union européenne. En Allemagne, le compte à rebours est lancé avant les élections fédérales anticipées. Elles se tiendront le 23 février, mais d'ici là, l'heure est à la campagne. Les deux partis historiques, le SPD et la CDU, ainsi que l'outsider d'extrême droite, l'AfD, ont rassemblé leurs militants ce samedi. Ludovic Piétenu depuis Berlin.
Un score d'ex-République soviétique, presque 100% des voix pour le leader de la CDU, Friedrich Merz, désigné candidat direct au Bundestag dans son fief, parmi les plus huppés de la Rhénanie. « Je n'ai jamais eu un résultat pareil », dit-il, une fois les applaudissements retombés. Il parcourt les rangs, serre des mains, accepte les selfies et puis s'en va. En matière de communication, la CDU affiche un candidat confiant et favori. Un contre-feu au meeting organisé au même moment par le SPD, conférence dite de la victoire électorale autour du chancelier sortant, Olaf Scholz est accueilli mi-acclamé, mi-hué, mais garde le sourire. Dans ce premier discours de campagne, il balaie les mauvais sondages et s'engage. « Je suis votre chef, je peux gagner, je vais vous le prouver. » Au même moment, l'Alternative pour l'Allemagne et son leader Tino Chrupalla attaquent le favori. Merz est plus nuisible que Merkel et Scholz, l'homme du grand capital, l'ancien du fonds BlackRock. Il veut livrer des missiles Taurus à l'Ukraine. L'AfD se pose en alternative et en acteur de paix. Ludovic Piétenu, Berlin, RFI.
Berlin, où il est minuit 6, comme à Paris, et ce dernier avertissement de la part de Marine Le Pen, la censure n'est pas inéluctable. Si le Premier ministre accepte de négocier, a déclaré la patronne du RN, le Rassemblement national pourrait voter la censure initiée par la gauche si le gouvernement ne lui donne pas plus de garanties budgétaires. Lui est le nouvel ambassadeur américain en France, Charles Kushner, c'est le père de Jared Kushner, gendre de Donald Trump. L'homme de 70 ans, mania de l'immobilier, a passé un an en prison au début des années 2000 pour des faits de fraude fiscale, subornation de témoins et contribution illégale à des campagnes électorales. Son rôle sera de renforcer le partenariat avec Paris, le plus ancien et l'un des plus solides alliés des États-Unis, a expliqué Donald Trump sur son réseau social Truth Social. Et si on travaillait plutôt à ce qui nous ressemble? C'est ce que dit, mais pas seulement, le film français Fanfare, sorti cette semaine et bien accueilli par le public ces derniers jours. C'est l'histoire de deux frères séparés pendant l'enfance et confiés à des familles adoptives de milieux différents. Cette idée de départ peut être traitée sur un mode dramatique ou comique, mais une troisième voie existe, c'est celle qu'emprunte le film. Et c'est réussi, Sophie Dorlotin.
D'un côté, Thibaut est un chef d'orchestre réputé, dirigeant des ensembles symphoniques à travers le monde. De l'autre, Jimmy vit dans le nord de la France et joue du trombone en amateur dans une fanfare.
Et ça fait combien de temps que tu joues du trombone ?
Thibaut et Jimmy sont frères biologiques et vont l'apprendre par hasard.
Il y a 15 jours, j'ai appris que j'avais une leucémie.
Ah merde.
Oui. Ma sœur a fait un test pour savoir si elle pouvait me faire un don de moelle. Et il s'est avéré qu'elle n'était pas compatible.
Ah merde.
Mais surtout qu'elle n'était pas ma sœur.
Ah putain. Enfin je veux dire, merde.
Oui, mais j'ai découvert que j'avais un frère.
Le réalisateur Emmanuel Courcol arrive à désamorcer avec élégance et humour des situations dramatiques. En Fanfare n'est pas qu'une histoire de résilience et de fraternité. Ce film aborde avec justesse la question du déterminisme social. Les deux frères de sang ont la musique en héritage, mais l'un a été adopté par une famille aisée et l'autre peine à joindre les deux bouts. Évitant les stéréotypes, filmant une véritable fanfare du Nord, le réalisateur rend hommage avec sincérité au milieu ouvrier et aux fortes solidarités du bassin minier français.
En fanfare avec, entre autres, les acteurs Benjamin Laverne et Pierre Lottin. Un mot de foot avant de refermer ce journal. Le Paris Saint-Germain, en manque d'inspiration, cale face au FC Nantes, un partout. Plus tôt dans la journée, les Brestois, qui restaient sur trois défaites de rang, se sont rassurés en battant Strasbourg. La correction infligée par les Rennais, 5-0 contre Saint-Etienne. En Liga espagnole, nouveau faux pas du leader, le Barça, battu à domicile 2-1 par le 14e Las Palmas. Le Bayern reste invaincu en Bundesliga cette saison en arrachant le nul sur la pelouse de Dortmund dans le classiqueur de Bundesliga, un partout. Et puis en Amérique du Sud, finale 100% brésilienne en Copa Libertadores, le club de Botafogo sacré pour la première fois après sa victoire 3-1 sur l'Atlético Mineiro. Il est minuit 10 ici à Paris, une heure de moins en temps universel.